Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gones qui cause culture sur lyondemain.fr.
Hello everybody! Les Good Gones s'internationalisent. C'est pas facile à dire. Après la Biennale d'art contemporain et ses 88 nationalités, place à peinture fraîche avec des artistes des quatre continents. On adore voyager, ça tombe bien. Le monde s'invite à Lyon et on vous en parle. Pour débuter, nous avons discuté technologie avec le directeur artistique du festival Peinture Fraîche, le street artiste Cartoine. Guillaume nous fera découvrir le duo de Terre Noire qui se produit au Marché Gare cette fin de semaine. Gaël nous parlera d'ouvriers et d'ouvrières à la galerie Le Bleu du Ciel. Nous terminerons bien évidemment avec nos traditionnels Gédéon, nos coups de cœur du moment. On décolle pour le Peinture Fraîche Festival qui a ouvert ses portes cette semaine et se tiendra jusqu'au 6 novembre à la Halle de Bourg dans le 7e arrondissement. Nous avons rencontré lors du vernissage le directeur artistique et street artiste Cartoine. Cartoine, on vient d'assister à cette visite presse de Peinture Fraîche. C'est le lancement aujourd'hui. C'est encore une très très belle édition et avec des dizaines d'artistes que l'on va découvrir, d'autres moins qui sont des historiques du street art. Moi, ce que je retiens aussi, ce sont les innovations lyonnaises. C'est une rencontre entre la technologie et le street art. Ça, c'est vraiment votre dada, Cartoine.
C'est plus que notre dada, c'est notre, comme les Anglais disent, notre DNA, notre ADN. En fait, quand on a créé dès la première édition, on a voulu vraiment inscrire, questionner ce rapport entre les nouvelles technologies ou les technologies, parce que je rappelle souvent qu'elles ne sont pas forcément nouvelles, et le street art, ce que pouvaient apporter les technologies au street art. Et c'est vraiment l'ADN du festival, et d'ailleurs c'est unique au monde, hein. Il n'y a aucun autre festival qui a ça dans son ADN, qui l'aborde de façon anecdotique peut-être, mais en tout cas qui vraiment le développe pas autant que nous. Et voilà, moi en tant qu'artiste, je m'intéresse aux nouvelles technologies, et j'avais envie de le montrer, et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'artistes qui questionnaient justement cette relation-là, des artistes que je ne connaissais pas, qui ne se connaissent pas entre eux forcément. Enfin voilà, j'avais envie de vraiment de montrer, de les rassembler, et de les faire rencontrer même la scène locale. Il y a des projets qui ont émergé des éditions précédentes, donc je suis très content. Par exemple, même nous, on essaye, au sein même du festival, dans l'organisation, de réfléchir sur l'apport des technologies sur notre festival. On met, donc, depuis la première édition, une application de réalité augmentée. Ça aussi, pareil, c'est assez unique au monde. Et d'ailleurs, je suis assez fier et je me gargarise, j'avoue, de ça. Puisque nous, on fait ça depuis 4 ans. Et depuis cette année, et je sais de sources sûres que c'est en regardant le festival Peinture Fraîche à Lyon, que l'un des plus grands artistes, si ce n'est un des plus grands festivals au monde, si ce n'est le plus grand, le Mural Festival à Montréal, se met pour la première année à faire de la réalité augmentée. Donc on est très très fiers. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas croire que Lyon est isolé. Lyon est une place forte de la création dans le monde et on est regardé. Beaucoup de gens, je vis moi-même, je disais tout à l'heure, à moitié au Costa Rica, à moitié à Lyon, et je sais que le Costa Rica est très très friand de tout ce qui vient de France, très francophile. Et donc voilà, on met en place on questionne les nouvelles technologies sur l'organisation. On a mis en place depuis l'année dernière, par exemple, quelque chose qui est unique au monde, puisque c'est nous qui l'avons mis en place, des tips, des pourboires qu'on peut laisser aux artistes. Scannant un QR code en dessous du nom de l'artiste, on accède à un site internet qui s'appelle streetarttips.com et on peut laisser un pourboire. L'année dernière, le plus gros pourboire, je crois que c'était 20 euros, donc on en a. On peut laisser 1 euro et puis laisser un message à l'artiste. Chaque pourboire donné, l'artiste reçoit un mail. Donc c'est vraiment transparent, on n'a pas besoin de passer par le festival. Et puis ça permet d'avoir une relation, de laisser un petit message en disant voilà, ton œuvre m'a fait délirer, ça m'a touché, ou tiens, j'aurais bien voulu demander pourquoi tu as fait ça. Enfin voilà, d'avoir une relation directe avec l'artiste et de pouvoir potentiellement lui amener une rémunération supplémentaire en plus de ce que nous donnons aux artistes sur le festival.
Il y a une nouveauté également cette année, le monde des NFT vous intéresse particulièrement, Cartoine. C'est vraiment un univers qui est évidemment l'œuvre virtuelle auquel vous croyez beaucoup, dans la mesure où aujourd'hui, eh bien, il va falloir peut-être moins consommer.
Vous savez, quand j'ai commencé moi en 89 faire du street art, on m'a dit pendant longtemps, ouais, mais ton truc, dans 3 ans, c'est fini. C'est une mode. La preuve, on a fêté notre demi-siècle il y a 2 ans. Donc, c'est plus une mode, c'est une culture. Donc, j'ai envie de dire, je suis très fier de ça vis-à-vis des personnes, du nombre de personnes qui m'ont dit ça. Et j'entends la même chose des NFT. C'est pas parce que quelque chose est nouveau, qu'il y a des gens qui font de la spéculation dessus. Je dis souvent, je fais souvent le rapprochement avec un outil. Si on utilise un marteau et qu'on se frappe sur les doigts, c'est pas de la faute de marteau, c'est de l'utilisation qu'on en a faite. Ben, le NFT, c'est pareil. Et d'ailleurs, on en fait, cette année, on a réfléchi sur l'utilisation du NFT. Plutôt que de faire une œuvre, alors ce sera une œuvre collectionnable qui sera sur le ticket, mais on a misé sur le ticket d'entrée. Et pour moi, c'est le futur. Déjà, ça dématérialise le ticket, ça évite de couper des arbres, par exemple, et de produire du papier. Mais c'est aussi, il y a une relation au ticket qui est collectionnable. Je donnais l'exemple du ticket du concert des Stones en 62 à Paris, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais voilà, où il y a des gens qui collectionnent, qui ont quelque chose d'affectif ou qui collectionnent cet objet. Donc ça, c'est la première chose. On est hérité vraiment dans la culture du ticketing. On s'est associé d'ailleurs, c'est grâce à une start-up parisienne qui s'appelle Taylor, qu'on a mis ça en place. Donc ces tickets, alors ces NFT sont payables, contrairement à ce qu'on faisait avant, non en crypto-monnaie mais en euros. Donc on peut acquérir son premier NFT en euros. On veut faire de la pédagogie, hein, inviter notre public à collectionner leur premier NFT. Ça donne accès, alors c'est au même prix que le pass classique, on peut toujours acheter un pass classique, mais avec le NFT, on participe à une loterie, on va pouvoir gagner des packs de goodies, des accès à la visite 360 de l'année dernière qui sera accessible sur Internet, enfin des tas de choses, ça amène des choses en plus au même prix que le pass classique. Et ça me permet de dire aussi autre chose, parce que quand j'ai commencé, ouais, toi tes bombes de peinture sur un mur, c'est pas de l'art. Les artistes numériques aujourd'hui souffrent un peu de ça aussi, ceux qui créent sur des palettes graphiques. Le médium et le média, quel qu'il soit, ne remettent pas en cause la création qu'il y a derrière. Et donc l'art numérique est un art à part entière et le NFT est l'œuvre numérique d'un artiste qui l'a créé en amont. Donc voilà, le support ne dévalorise pas l'œuvre, selon moi. Enfin, en tout cas, j'y vois un lien direct avec ma propre histoire dans le street art.
Merci beaucoup, Cartoine. Le téléphone nous rappelle à la réalité, en fait, du directeur artistique que vous êtes. Merci beaucoup de m'avoir accordé un petit moment.
Merci à vous. Bonne visite.
Salut Guillaume, poursuivre avec toi avec des Stéphanois, ça fait plaisir, qui portent le nom d'un quartier de la ville, Terre Noire. Ils seront en concert cette fin de semaine, enfin ce milieu de semaine pour être plus exact, au Marché-Gare, une salle flambant neuve avec le Marché-Gare.
Tout à fait, bonjour Gaëlle. Bonjour. Effectivement, donc Terre Noire, c'est un quartier de Saint-Étienne, mais ça a été indépendant pendant très longtemps. Et c'est intéressant de parler de Saint-Étienne, parce que quand on parle de Saint-Étienne, on pense à la mine. Et en ce moment, il y a quand même quelques conflits sociaux. Et en fait, il y a 120 ans, est-ce que tu connais le puits de mine de la Massardière?
Non.
C'était un des plus importants, justement, de Saint-Étienne et donc de la commune de Terre-Noire. Et en fait, en octobre 1902, il y a eu des manifestations, un petit peu comme aujourd'hui, et la police a chargé, il y a eu 2 morts. Mmh. Et un certain Aristide Briand est venu faire un discours très enflammé pour défendre ses mineurs. Donc ce quartier, effectivement, maintenant de Saint-Étienne, Terre-Noire,
il est porteur d'une
histoire et d'un
puissante
message. Mais ce qui est intéressant avec le groupe Terre-Noire, donc deux frères, Raphaël et Théo, c'est qu'ils ne se tournent pas justement vers le passé. Ils s'intéressent à leur histoire, bien sûr, personnelle, mais ils vont vers le futur. Et il se trouve qu'on les a vus justement au Marché-Gare pour l'inauguration il n'y a pas très longtemps. Et vraiment, ils ont illuminé
absolument,
cette soirée.
Absolument, j'y étais, c'était absolument merveilleux.
Voilà. Et surtout, ce qu'il faut vraiment faire comprendre aux gens qui nous écoutent, c'est que le groupe a vraiment évolué d'une façon incroyable en 4-5 ans. Moi, je les suis depuis à peu près 4-5 ans, et je les ai vus au Festival Nouvelle Voix à Villefranche, je les ai vus au Printemps de Bourges, je les ai vus dans plein de conditions différentes, et on les a vus même ensemble, ouais. Salle Molière aussi,
bien
où
sûr,
déjà
c'était
un très bon concert. Mm. Mais là, le projet a évolué. Alors bien sûr, ils sont auréolés de leur prix des victoires, des découvertes, des victoires de la musique. Et aujourd'hui, leur album, certes, est un petit peu, pas ancien, mais il est de l'année dernière. Il est ressorti d'ailleurs dans une version un peu plus longue avec 4 ou 5 titres supplémentaires. Et donc, je trouve que leur projet a vraiment évolué. Et l'autre jour, quand on était au Marché-Gare, ils ne sont plus que 2, ils sont 4. quatre. Mmh. Et donc, il y a deux musiciens qui les libèrent un petit peu de contraintes.
De la technique, qu'ils allaient d'un clavier à l'autre, d'une guitare à l'autre.
Et donc là, ça fonctionne vraiment comme un duo, mais c'est difficile de dire que c'est un duo, parce que c'est plus un échange.
Il y a une complicité, un dialogue.
Évidemment, ce sont deux frangins, mais ça va beaucoup plus loin. Et puis surtout, au point de vue de la musique, il y a vraiment quelque chose d'intéressant et qui a un petit peu évolué. C'est-à-dire que oui, c'est de la pop, oui, c'est un petit peu électro, mais en fait, c'est aussi des textes, des textes qui peuvent parfois être très forts. Hein. Il y a un texte, évidemment, sur le décès de leur papa, qui était finalement une matrice pour le groupe. Et voilà. Et toutes ces chansons... je trouve on prie une nouvelle vie finalement, un nouveau départ avec ce nouveau format A4. Oui, donc j'invite vivement nos auditeurs à aller au Marché-Gare pour écouter Terre Noire donc le mercredi 19, parce que d'abord, comme tu le disais en préambule, c'est une nouvelle salle, enfin c'est pas une nouvelle salle mais elle a été refaite.
Ah bah bien sûr,
la jauge a été augmentée,
l'acoustique est très bonne,
l'acoustique est complètement et Raphaël danse ou plutôt se meuvent d'une façon très particulière. Il y a un côté on dirait des grands oiseaux qui se déplacent. Et vraiment, les textes sont ultra touchants. Il y a vraiment des choses qui sont très personnelles, mais en même temps, voilà, cette invention de leur Black Paradiso, leur paradis noir, voilà, évidemment, Terre Noire, paradis noir, est vraiment très, très judicieux. Donc, on peut rappeler quand même le titre de leur album qui est sorti en 2020, Les Forces Contraires. Là, il y a une version donc avec 4 ou 5 titres supplémentaires. Et puis, on va peut-être écouter un titre. Alors, c'est très difficile de choisir un titre. Et comme là, en ce moment, je trouve qu'on a besoin un petit peu de paix, donc ça va aller, de Terre Noire.
Nos vies s'illuminent de l'ombre du départ. N'aie plus peur de la mort. N'aie plus peur de la mort. Plus j'avance dans la vie, plus je m'allège. Plus ça fait peur, plus je m'aligne. Dans les ténèbres, je vois des lumières. Il voit la mort, je tiens ma ligne. Mon amour, tu me fais du bien. L'océan en toi me retient. J'ouvre les yeux sur ce qui est beau. J'ouvre le gris sur ce qui est bleu. Je me mélange au monde, je me mélange à toi. Tu rêves au ravin, la vie est à moi. Toi dans ton désir, clé du brouillard, embrasser fort le feu de la vie. Flash dans le ciel, battement de cils, t'es l'aveu du beau du dernier horizon. T'es la vie, on la lave, la grande énergie sur le monde. Je serais déçu que tu ne chantes pas le chant de la joie pure. Que tu ne chantes pas. Ça va aller, ça va aller la vie. Ça va aller bien. Ça va aller, ça vaut le coup, ça va aller, ça vaut le coup. Ça va aller bien. Regardez la neige faire du béjart. Vouloir plus que ce que l'on a déjà. Le printemps se fait sentir. Comme ça tombe bien, je pense qu'à sortir. Je marche exprès sur des orties. Voir si la douleur est partie. Mon amour, tu me fais du bien. Ton soleil en moi se dépose. Je suis le gamin de l'histoire sans fin. Jamais loin du dragon rose. Je serais déçu que tu ne chantes pas le chant de la joie pure. Que tu ne chantes pas. Ça va aller la vie. Ça va aller bien. Ça va aller, ça vaut le coup. Ça va aller, ça vaut le coup. Ça va aller bien. Bien. ça va bien.
On vient d'écouter Ça va aller de Terre Noire en duo avec Pomme, Guillaume. On rappelle la date du concert ?
Alors, en plus, on a de la chance, on est dans notre région, ils sont un peu dans leur région aussi, et donc il y a plusieurs dates intéressantes. Le 18 octobre à Porte-les-Valences, c'est pas très loin, au Train Théâtre. Ensuite, le lendemain, au Marché-Gare, le 19. Et puis, je crois qu'il y a une autre date pas très loin de chez nous, je crois que c'est à Saint-Chamond, très loin de
Saint-Étienne. Ah bah là, pour le coup, ils sont pas loin de Saint-Étienne, ils sont à la maison.
Aristide Briand, le 19 novembre. Donc vraiment, vous n'avez pas le droit de rater Terre Noire. C'est vraiment un des groupes passionnants à suivre, voilà, et de Saint-Étienne. Et on peut aimer Saint-Étienne quand on est lyonnais. Ces querelles sont totalement rigoureusement stériles. Voilà.
Ok, merci beaucoup, Guillaume. Bonjour Gaëlle, cette semaine c'est la galerie Le Bleu du Ciel qui a retenu ton attention avec son exposition intitulée « On n'est pas des robots, ouvrières et ouvriers de la logistique ». Alors là, il faut vraiment que tu nous expliques, Gaëlle.
En effet, c'est le titre de l'exposition au Bleu du Ciel. Alors, lorsqu'un colis est acheminé, vous posez-vous la question de l'identité des personnes qui ont travaillé en amont afin que cette commande soit livrée ? La logistique est un pivot de notre quotidien, mais quel est le quotidien des ouvrières et ouvriers de la logistique ? Trois photographes, Cécile Cuny, Nathalie Mohadjer et Hortense Soichet, ont mené avec quatre chercheurs une enquête immersive pendant 3 ans, d'Orléans à Paris et de Cassel à Francfort, sur le monde ouvrier des zones de transit de marchandises. Leur approche, à la fois sociologique, ethnographique et photographique, relève d'une commande du laboratoire d'urbanisme de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée et de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Animée par le fait de penser l'urbain par l'image, les trois photographes associent recherche urbaine, sciences sociales et arts visuels avec photographie et vidéo. Les activités de logistique sont essentiellement localisées dans des zones à la périphérie de grandes agglomérations. Comment l'approvisionnement de marchandises toujours croissant a-t-il métamorphosé les territoires ? Comment l'humain est-il impacté par les nécessités de ces gigantesques entrepôts ? L'exposition « On n'est pas des robots » répond à ces interrogations et s'inscrit ainsi dans la veine du nouveau documentaire défendu par le Bleu du Ciel. L'exposition s'ouvre sur l'observation des nouvelles urbanités générées par les activités de logistique. Les images de Cécile Cuny, photographe et sociologue, saisissent des lieux périphériques, des entre-deux, où le paysage est ponctué de grilles et de signalétiques, un espace public fonctionnel, mais désolé, presque un non-lieu. À l'étage du Bleu du Ciel, des cadrages serrés aux couleurs acidulées de Nathalie Mohadjer offrent une autre perception de la logistique, plus intime, axée sur des objets révélateurs photographiés dans la zone de Dietzenbach à Francfort. Exemple, focus sur le design de chariots jaunes où la démarche plastique joue sur la métonymie. Un autre cadrage éloquent, la pause déjeuner d'un agent où un marchepied fait office de minuscule table pour un plateau repas. La troisième photographe, Hortense Soichet, documente l'immersion dans l'entrepôt de logistique Interforum, diffuseur de livres à Malesherbes. Que cachent les grands murs de l'entrepôt ? Dans ce lieu, tout semble incessamment transiter, les produits à emballer et les agents qui mettent en carton. Ces producteurs de colis, ce qui en fait des ouvrières et des ouvriers dans le sens où, comme le qualifie l'INSEE, il y a confrontation avec la matière, sont agents de tri, caristes, agents d'expédition, de réception, manutentionnaires, magasiniers. Ils représentent 13% de l'emploi ouvrier en France et 17% en Allemagne. Toute commande en ligne induit en amont une ligne de convoyeurs. Mais qui travaille sur ces lignes d'emballage ? Pourriez-vous leur donner un visage, une identité, raconter leur vie, leur travail, leur quartier, leur famille, leurs loisirs ? La formulation « on n'est pas des robots » dans le titre de l'exposition vient précisément tordre le cou à l'invisibilité de ces agents du flux tendu. De février à septembre 2020, On n'est pas des robots était programmée à la Maison de la photographie Robert Doisneau à Gentilly. Cécile Cuny, donc l'une des trois photographes, souligne combien, après la fin du premier confinement en mai 2020, l'exposition de Gentilly avait soudainement connu une large couverture médiatique. Les visages inconnus de la logistique, en faisant partie des fameux invisibilisés, devenaient dès lors très médiatisés. Ces présences invisibles ont paradoxalement gagné en visibilité en plein confinement. Et plus l'espace public était déserté, plus la logistique croissait. La majorité invitée à rester chez elle semblait subitement découvrir l'humain derrière chaque commande livrée. Car oui, la logistique a un visage et chaque visage une histoire. Ces histoires sont retracées dans les portraits entretiens réalisés par Hortense Soichet et Nathalie Moadjer. Des textes en vis-à-vis de photos des agents et de leur lieu de vie racontent des parcours souvent précaires, dus entre autres à la multiplication des contrats d'intérim. Le secteur logistique est le premier employeur d'intérimaires en Allemagne, 21,7%, et le second en France, 12,2%. Mais pour l'enquête de l'exposition, on n'est pas des robots, la proportion d'intérimaires est supérieure à 30%. Pour ces portraits entretiens, les photographes ont utilisé la méthode des itinéraires du sociologue Jean-Yves Petitot. Approche où c'est la personne interviewée qui scénarise un parcours. La place accordée au sujet est déterminante, souligne Hortense Soichet. Puis s'instaure une relation en collaboration avec le photographe et le sociologue. Après avoir vu l'exposition « On n'est pas des robots, ouvrières et ouvriers de la logistique », vous aurez une conscience définitivement plus aiguë des identités en amont de chaque livraison. L'exposition est à voir jusqu'au 3 décembre 2022. Plus d'informations sur lebleuduciel.net.
Merci beaucoup Gaëlle. En effet, une thématique tout à fait passionnante. On poursuit nos Gédéons avec toi, Guillaume. Il s'agit de littérature, une fois de plus. On sait que les deux passions de ta vie sont la musique et la littérature, avec un titre tout à fait étrange, « Les poumons pleins d'eau » de Jeanne Beltane.
Je l'ai découvert au Théâtre Nouvelle Génération lors des rencontres qui nous présentaient les auteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et Jeanne Beltane, dans sa présentation, faite par elle-même, moi, m'a beaucoup touché. C'est une jeune autrice qui a gagné un concours sur Arte Radio. Grâce à ce concours, elle a pu finalement poursuivre avec ce roman qui est une sorte de prolongement naturel d'un texte qu'elle avait écrit, d'un texte court qui lui a fait remporter ce concours. Le concours était parrainé par notamment Nicolas Mathieu, qui est un autre auteur que j'apprécie énormément. Et donc Jeanne Beltane, dans ce roman, c'est bien noté roman sur la couverture, qui est quand même très autobiographique parce qu'il évoque en fait le suicide de son papa. Et donc c'est un événement assez douloureux, mais sa façon en fait de raconter cette histoire, à la recherche finalement du pourquoi, comme souvent, eh bien, qu'on ne saura peut-être jamais, mais ce n'est pas l'important, c'est le chemin qui est important, eh bien, parfois conduit à des scènes un petit peu cocasses, un petit peu, voire même assez drôles. En plus, elle rajoute des passages très poétiques, je ne peux pas trop en dire, parce qu'il faut quand même aller lire le livre. Et puis, évidemment, quand tu as signalé le titre « Les poumons pleins d'eau », il y a beaucoup d'eau dans ce roman, et il y a aussi beaucoup de poissons, ça, je ne peux pas en dire plus. Peut-être que tu connais ce mot, la métempsycose, voilà, donc... il faut aller un petit peu de ce côté-là, d'accord, sur le cheminement des âmes après les décès des personnes. Et voilà, donc c'est à la fois très poétique, il y a des moments de poésie vraiment très intéressants. Et puis, évidemment, ça pourrait paraître dramatique, mais en fait, ça l'est pas du tout. Et on poursuit l'enquête et on rencontre un père assez fantasque, plein de fantaisie, quelqu'un qui aurait dû faire médecine et puis finalement est devenu un chercheur, qui finalement a bien réussi sa vie, mais même si sa famille pense le contraire. Donc c'est vraiment un roman à lire, c'est vraiment une personne... En plus, je trouve assez truculente quand elle est venue nous parler de son livre. Elle n'a pas du tout plombé la matinée. Et donc, c'est vraiment un livre passionnant, très court.
La couverture est très belle.
La couverture est tout à fait est très belle. D'ailleurs, on va citer l'illustrateur qui s'appelle Caroline Pajot. Et donc, c'est aux éditions Équateur. Et donc, je le conseille, je redonne le titre « Les poumons pleins d'eau » de Jeanne Beltane aux éditions Équateur au pluriel.
Merci beaucoup, Guillaume. On a entendu Guillaume à l'instant qui nous parlait de littérature avec ce texte qui est sans doute très puissant, très profond, les poumons pleins d'eau. Gaëlle, avec quoi es-tu venue dans ta muisette ?
Cette semaine, je suis venue avec un film. Mon Gédéon de la semaine est « Les enfants des autres » de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira et Roche Dizem. Ali, donc Roche Dizem, a une fille de 4 ans à laquelle s'attache sa nouvelle compagne, Rachel, jouée par Virginie Efira. Le rôle de belle-mère ou de beau-père, rarement abordé au cinéma et dans la littérature, trouve ici tout son éclat. Depuis des scènes d'attachement complices jusqu'aux moments les plus feutrés, quand la place des beaux-parents comporte implicitement ce petit pas de côté à faire et une juste mesure à adopter entre présence et retenue. Dans Les enfants des autres, de longs plans fixes accompagnent Rachel et donnent à ressentir toute la gamme de ses émotions contenues. Il est atypique qu'un premier rôle soit donné à une belle-mère, incarnée de plus sans caricature. Avec ce cinéma de l'intime, j'ai eu le sentiment que Rebecca Zlotowski filmait Virginie Efira comme le faisait Claude Sautet avec Romy Schneider. On pense également, pour la fine étude de mœurs, au film « Kramer contre Kramer » de Robert Benton. « Les enfants des autres » est un film généreux qui traite avec justesse et sincérité de la famille recomposée.
Merci beaucoup Gaëlle, en effet une thématique qui nous touche toutes les deux. J'enchaîne et je vais terminer avec le cinéma encore à l'affiche, effectivement, avec cette idée que le théâtre peut parler de cinéma. À partir du 13, je vais y arriver, à partir du jeudi 13 octobre jusqu'au 23 octobre, donc c'est une série assez longue, 10 jours. Précipitez-vous à la Célestine, vous savez, cette petite salle en dessous des Célestins, pour assister à ce spectacle singulier qui s'appelle « Surexposition », entre parenthèses, Patrick Devers. C'est un spectacle qui a été écrit par Marion Aubert et mis en scène par Julien Rochat. Ils travaillent ensemble dans une compagnie qui s'appelle la compagnie des souffleurs de verre. Regardons Patrick Devers à travers sa filmographie. Marion Aubert et Julien Rochat retracent le chemin d'un homme en mouvement, en recherche, en lutte. Lorsqu'on pense au comédien Patrick Devers, on pense à son incroyable sensibilité, à sa sincérité et ses emportements. On pense à un homme submergé par l'urgence de dire, un homme aux convictions profondes, questionnant sa place dans la société. Cet être à la réactivité incendiaire est une mine pour le théâtre. Avec leur façon de tout prendre à rebrousse-poil et leur charme fou, l'autrice Marion Aubert et le metteur en scène Julien Rochat ont imaginé une fresque haletante. Une fresque très physique, très charnelle, qui investit une poétique de l'humain. Explosion de sentiments, plongeoir au-dessus d'une fête à l'issue tragique, surexposition pratique. Patrick Devers s'intéresse non seulement à l'existence de l'artiste, mais aussi aux personnages de ses films. Les valseuses, Série Noire, La meilleure façon de marcher, comme aux grandes figures du cinéma français avec lequel il a tourné. Que lâche-t-on ? Que retient-on ? Comment faire face au vide ? Borderline sur le fil. Une vision romancée des êtres intranquilles que nous sommes. Bref, à voir absolument. Je rappelle peut-être aussi à dessein qu'il y a un bord de scène mardi 18 octobre où vous pourrez échanger avec le comédien, échanger avec le metteur en scène pour ce spectacle singulier. Ça s'appelle Surexposition Patrick Devers et c'est au Théâtre des Célestins, plus précisément à la Célestine, du 13 octobre au 23 octobre. Allez, on se quitte sur ces bonnes paroles. Le cinéma qui inspire le théâtre, c'est toujours bon à prendre. Merci, à la semaine prochaine. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaëlle Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.